Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Dans cette rubrique, Jean Pruvot traite de l'origine et de l'histoire de deux mots, mémoire et migraine.
Mémoire, la preuve par neuf. Êtes-vous mémoratif de ce qui vient de vous être dit? Vous sentez-vous mémorieux? Ce ne sont pas là des mots inventés, mais ayant bel et bien existé. À vrai dire, même s'il n'était déjà plus très répandu au XIXe siècle, être mémoratif de quelque chose, par exemple, c'était s'en souvenir. On le trouve encore dans le dictionnaire de l'Académie de 1878. Et de la même manière, être mémorieux, avoir de la mémoire, c'est une formule que George Sand utilisait encore dans ses romans. Comme 90% des mots français, le mot mémoire remonte effectivement à un mot latin, memoria, l'aptitude à se souvenir. Mais on peut encore le faire venir de plus loin, presque de la nuit des temps, d'une racine indo-européenne reconstituée, à l'origine du latin, du grec, du gaulois, du germanique et de quelques langues indiennes. Cette racine serait mer ou smer, définissant probablement le souvenir. Puisqu'on évoque les temps très anciens, on rappellera la mythologie et la divinité de la mémoire, Mnemosyne, qui fait partie des titans, ou plus exactement des titanides. Elle est la fille d'Uranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Belle référence. Mnemosyne prouva qu'elle était de forte santé en accueillant Zeus 9 nuits de suite, et allez savoir pourquoi, de ces 9 nuits naquirent 9 enfants, les 9 muses, avec parmi elles une muse d'excellence, Clio, la muse de l'histoire. Ce n'était pas une momerie que ces 9 nuits. Et d'ailleurs, une momerie, c'est, avouons-le, un mot qu'il fallait glisser parce qu'il s'agit tout simplement de l'anagramme du mot mémoire, même lettre, mais dans un ordre différent. On restera du côté des Grecs avec la racine mnémo, en s'intéressant à un mot récent, mnémotechnique. L'adjectif, inventé en 1825, désigne tous les procédés qui, sur la base d'associations mentales, permettent de mémoriser des choses difficiles à retenir. On a tous en tête quelques trucs mnémotechniques, par exemple. Cette phrase apprise en nos vertes années, en tant que pense-bête à propos des classiques. Penché sur la racine de la bruyère, la corneille boit l'eau de la fontaine, Molière, et on n'oubliera pas non plus les chiffres, avec par exemple ces deux phrases, que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages. Et, monsieur, vous tirez mal, je suis un novice pitoyable. Quel pourrait être tout d'abord ce nombre utile aux sages? Ben, je vais vous aider, le premier mot de « que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages » est « que », « que », combien de lettres? 3. Deuxième mot, « j' apostrophe », combien de lettres? 1. Troisième mot, « m », combien de lettres? 4. Ce qui donne 3, 1, 4. 3, 14. Pi. Et ainsi de suite. Quant à « monsieur, vous tirez mal, je suis un novice pitoyable », monsieur commence avec un « m » comme Mercure, vous par un « v » comme Vénus. Tiré par un T comme Triton, mal comme Mars, je comme Jupiter, suis comme Saturne, un comme Uranus, novice comme Neptune, pitoyable comme Pluton. Et la dernière planète, découverte tardivement, tombe bien, on pouvait ajouter un adjectif à novice. Il faut aussi de la mémoire, ne serait-ce que pour retenir les différents types de mémoire. Par exemple, si on se tourne du côté des animaux, on peut avoir une mémoire de linotte, qui ne retient rien, de lièvre, qui oublie tout au fur et à mesure, de fourmis, c'est-à-dire très précise, ou d'éléphant, très longue, dit-on. Si l'on pense à ces organes, on peut avoir la mémoire du ventre, donc la reconnaissance pour ceux qui nous nourrissent bien, mais aussi avoir une mémoire gustative, sensorielle, visuelle. Ne parlons pas de la mémoire biologique, celle de nos cellules, ou de la mémoire immédiate, celle des faits récents, ou différée, celle d'un passé plus lointain, de la mémoire affective, celle de Proust, qui se souvient des sensations passées en goûtant une madeleine, mémoire involontaire, à dissocier de la mémoire volontaire, reconstituée par l'intelligence. Et il faudrait aussi ajouter la mémoire des chiffres, la mémoire verbale, la mémoire individuelle, ou au contraire la mémoire collective, celle d'un peuple. Enfin, signalons une mémoire étonnante, celle que les médecins appellent la mémoire panoramique, qui parfois, dans des situations de danger mortel, offre en quelques centièmes de seconde des pans entiers du passé. Et si on évoque la mémoire externe, tampon, temporaire, virtuel, auxiliaire, circulaire, intermédiaire, interne, magnétique, principal, annexe, central, etc. On l'a deviné, l'informatique est au rendez-vous. On comprend donc qu'on puisse avoir des trous de mémoire et qu'on ait de la fuite dans les idées, comme le chante si bien Catherine Lara. On est sauvé par Balzac qui soutient qu'oublier est le grand secret des existences fortes et créatrices. Alors, on a envie de dire, comme Jules Renard, « J'ai une mémoire admirable, j'oublie tout ». Migraine à mi-temps. Si on voulait faire un jeu de mots sur le mot « migraine », quels seraient les deux mots qu'on pourrait à la limite y reconnaître ? Mi et graine, assurément. Mais si on a une forte migraine, on ne peut évidemment s'empêcher de penser que ce n'est tout de même pas qu'une moitié de la tête qui est concernée. Et pourtant, c'est bien l'origine du mot « migraine » que l'on vient de deviner. La migraine, c'est en effet un mot issu du grec « hémicrania », avec « hémi », H-E-M-I, qui veut dire « moitié », comme dans « hémisphère », et « crania », qui désigne le crâne. En latin médical, on disposait donc du mot « hémicrania », qui s'est abrégé par le début, comme lorsqu'on a abrégé « américain » en « ricain », par « aphérèse », disait le linguiste. « Hémicrania »,« hémicraine » a donc donné « migraine », »,« migraine », en faisant disparaître le « et » du début du mot. La migraine, dit Furtière en 1690, l'auteur de notre premier dictionnaire encyclopédique, est le mal aigu qui afflige la moitié de la tête, qui se dit proprement, quand on en sent la douleur, que d'un côté, soit à droite, soit à gauche. Et il ajoute, et là, attention à ne pas déclencher une migraine, il ajoute donc, la migraine est causée par les vapeurs mordicantes, élevées des hypochondres à la tête, qui pressent et piquent le péricrâne ou les méninges du cerveau. Bigre, l'affaire est sérieuse, voilà qui prend la tête. Se prendre la tête étant au passage une expression familière, très probablement issue d'un calque de l'anglais, « to take someone's mind ». Littéralement, prendre l'esprit de quelqu'un. On préférera de loin l'Académie qui déclare en 1694 « les odeurs très fortes donnent la migraine, c'est plus simple ». De fait, la migraine est vite devenue un mot échappant au corps médical pour être synonyme de « mal de tête ». Curieusement, ce mot a beaucoup plu et bien des écrivains se sont effectivement intéressés au mot. On n'en citera que deux, Balzac et Roland Barthes, un pour chaque moitié du crâne. D'abord Balzac, qui vise les femmes dans la physiologie du mariage. Que dit-il de la migraine ? L'affection, dont les ressources sont infinies pour les femmes, est la migraine. Cette maladie, la plus facile de tout à jouer, car elle est sans aucun symptôme apparent, oblige à dire seulement « j'ai la migraine ». D'une certaine manière, Balzac préfigure le Dictionnaire des femmes, publié en 1962 par six hommes, auteurs anonymes, les lâches, hein, qui consacrent un article entier au mot « migraine », en commençant par citer une femme, déclarant « Je serais sorti avec plaisir ce soir, mais j'ai une effroyable migraine, quel dommage !» Et les auteurs anonymes d'ajouter qu'heureusement ce mauvais coup est un peu passé de mode. Pour l'autre hémisphère cérébral, sans doute le gauche, qui, dit-on, est celui de la pensée forte. Donnons la parole à Roland Barthes, cité dans le Grand Robert. « J'ai pris l'habitude, dit-il, de dire migraine pour mot de tête. Peut-être parce que le mot est beau. Ce mot impropre, car ce n'est pas seulement d'une moitié de ma tête que je souffre, est un mot socialement injuste, attribut mythologique de la femme bourgeoise et de l'homme de lettres. La migraine est un fait de classe. Voit-on le prolétaire ou le petit commerçant avoir des migraines ? Notre grand homme n'aurait sans doute plus raison aujourd'hui. Le mot « migraine » s'est totalement installé dans l'usage courant. Il existe, en français très familier, des expressions plus imagées à éviter, même au lendemain de fête trop arrosées. « J'ai un troupeau de bisons sous le scalp », lit-on dans les romans policiers, lorsque le héros souffre de ce que l'on appelle la gueule de bois. Reconnaissons cependant que l'expression populaire offre l'avantage de pouvoir moduler, par exemple en déclarant « j'ai des gros bisons, des petits bisons, des moitiés de bisons, des mi-bisons qui dansent sous le scalp ». Et puis, après tout, voilà qui nous fait émigrer dans l'Ouest américain.